Soyez les bienvenus sur France Inter, le journal Sébastien Legenny. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, la France attaquée en Tunisie pour un épisode méconnu de son histoire coloniale. L'instance Vérité et Justice chargée d'enquêter sur les violations des droits humains demande à Paris réparation, révélation France Inter dans un instant. Un tour de vis supplémentaire contre la canicule, circulation différenciée aujourd'hui sur les routes à Paris et à Lyon. Dans ce journal, zoom sur une population particulièrement vulnérable à la chaleur, les détenus, reportage à suivre. Dans ce journal également, l'agriculture bio est bénéfique pour les abeilles qui produisent du miel. La CGT appelle les salariés de Pôle emploi à la grève contre la réforme de l'assurance chômage. Facebook s'engage à lutter contre les propos haineux en livrant l'adresse IP des fautifs. Et puis quand le ringard devient branché, le sac banane fait son grand retour.
L'invité de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50 est aujourd'hui Frédéric Millon, le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris.
France Inter.
Allez, direction la Tunisie pour commencer. Sébastien, la Tunisie qui demande réparation à l'État français pour des crimes commis après l'indépendance. C'est une information France Inter.
Oui, à l'origine de cette démarche, il y a une instance, l'instance Vérité et Dignité, chargée en Tunisie de faire la lumière sur l'histoire oubliée de cet ancien protectorat français. L'IVD travaille depuis 4 ans à identifier les victimes et les responsables de plusieurs crimes d'État sous le régime de Bourguiba ou de Ben Ali. Une mémoire douloureuse qui n'épargne pas non plus l'État français, dont l'armée, on le sait peu, est restée longtemps présente après l'indépendance, accusée dans plusieurs conflits sanglants. Un mémorandum sera donc prochainement envoyé à Paris pour demander des indemnisations, le tout à l'initiative d'une femme, Siem Ben Sedrine, la présidente de l'instance Vérité et Dignité. Notre correspondante Maureen Mercier l'a rencontrée à Tunis.
Des piles de dossiers sur son bureau. Siem Ben Sedrine, la présidente de l'instance, ne mâche pas ses mots.
Les premières violations commises par l'État français, c'est en juillet 1956. La Tunisie était indépendante et ils ont pilonné tout le sud. Et puis, le grand massacre, c'était à Bizerte. Ils ont tué un peu moins de 5000 personnes, quelques 300 militaires et tout le reste, c'était des civils. Il est temps que la France reconnaisse ses crimes et répare.
Des excuses et des réparations financières, selon les barèmes fixés par la justice transitionnelle tunisienne elle-même. Si l'on prend uniquement le cas de Bizerte...
Écoutez, multipliez vous-même un homicide sur le barème de l'IVD, c'est 200 000 dinars. Multiplié par 5 000, vous voyez ce que ça donne.
L'équivalent aujourd'hui de plus de 30 millions d'euros.
Et ça, c'est que Bizerte. C'est pas Jbel Agri, Jbel Bouhlel, Bargou, Sakrit Sidios, c'est pas tout ça. Mais dans le mémorandum, il y aura tous les détails, un nombre précis de morts avec des noms, avec tout ce qu'il faut pour justifier les demandes de la Tunisie.
Le mémorandum devrait être envoyé début juillet. Le gouvernement tunisien n'a pour l'heure pas pris position sur cette démarche de l'IVD. Nous avons tenté de joindre l'ambassadeur de France en Tunisie pour obtenir sa réaction, pour l'heure, sans succès. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
Ajoutons que l'instance Vérité et Justice a par ailleurs recueilli 62 000 plaintes en Tunisie sur les crimes d'État commis sous Bourguiba et Ben Ali. 1600 dossiers transmis à la justice sans aucun procès prévu pour le moment.
Il est 7h34. Plus de la moitié des véhicules interdits, Sébastien, de circulation aujourd'hui en Ile-de-France.
Interdits car trop polluants, c'est ce qu'on appelle la circulation différenciée. Concrètement, seules les vignettes critères de 0 à 2 seront autorisées à rouler jusqu'à minuit ce soir. Un dispositif valable dans la capitale, dans tous les départements franciliens, à l'intérieur de l'autoroute A86, mais aussi à Lyon et Villeurbanne et demain à Strasbourg. Il faut dire que la France s'enfonce chaque jour un peu plus dans la canicule avec des 40 degrés frôlés dans le centre de la France. Des températures difficilement supportables, notamment dans les prisons surpeuplées. Témoignage de détenus avec Mathilde Lemaire.
En prison, les portables, bien qu'interdits, circulent. Les vidéos, les interviews, un moyen pour les détenus de faire connaître leur souffrance par ces chaleurs records. François Quadragénaire est dans une maison d'arrêt du sud de la France où on a relevé hier 46 degrés.
Il n'y a pas d'air, le soleil tape en plein, c'est pas aéré. Il
fait une chaleur effroyable, on transpire. En plus, les douches, le problème, c'est que les thermostats ne marchent pas, donc on a de l'eau qui est brûlante. Les ventilateurs, faut les acheter et pas tout le monde a de l'argent en prison parce que c'est la prison, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont indigents, donc c'est très compliqué. Je pense qu'en France, on s'occupe plus des eaux que des prisons.
Les prisons comme Fresnes, construites fin 19e, ont des verrières. C'est la fournaise, il y a des malaises. À 3 voire 4 dans 9 mètres carrés, la chaleur ajoute aux tensions. Certains détenus ouvrent exprès les robinet inondent leurs cellules et écopent de sanctions. L'administration pénitentiaire dit qu'elle les aide à passer au mieux cette période, surveillant les plus fragiles, les plus âgés, proposant des tours de douche plus fréquents. Bruno Clément Petremann dirige la prison de la Santé à Paris.
On a fait installer aussi des climatiseurs mobiles dans les endroits où on s'est aperçu que la chaleur était la plus suffocante. Par exemple, les salles d'attente des parloirs. Il y a des mesures qui peuvent aller aussi, par exemple, jusqu'à l'arrosage des façades des bâtiments pour rafraîchir un peu la pierre.
Les directeurs de prison font remonter toutes les difficultés rencontrées ces jours-ci. Objectif, veiller à ce que cette canicule ne favorise pas une explosion de violence.
Mathilde Lemaire, on pouvait s'en douter, mais ça se confirme. Le bio fait du bien aux abeilles. Pour la première fois, des chercheurs français du CNRS et de l'INRA ont pu quantifier l'impact de l'agriculture biologique sur la santé des ruches d'abeilles mellifères qui fabriquent du miel. Et ce, grâce à un suivi sur 6 ans, résultat jusqu'à 53% de miel en plus produit dans les colonies entourées de parcelles bio. L'étude est unique à l'échelle mondiale. Sophie Becherel.
Sur 450 km², les chercheurs ont tout noté. Le paysage, le type de culture, les pratiques agricoles. Résultat, plus 20% de butineuses, plus 37% de larves et plus 53% de miel quand les ruches sont entourées d'exploitations bio. Ce n'est pas seulement l'absence de néonicotinoïdes qui est bénéfique pour les abeilles, explique Vincent Bretagnol, chercheur au CNRS.
Dans les parcelles en agriculture biologique, il y a aussi plus de fleurs parce qu'il n'y a pas d'utilisation d'herbicides, plus de prairies parce que souvent les agriculteurs bio sont aussi éleveurs, plus de haies, donc une disponibilité en fleurs plus élevée, donc plus de pollen disponible. Et finalement, le miel, c'est la conjonction de ces deux phénomènes avec plus de fleurs et plus d'adultes butineuses pour aller collecter ce miel.
Les fleurs sauvages permettent aussi aux abeilles de mieux passer la période de soudure de mai et juin, quand l'agriculture intensive n'offre plus de fleurs, de colza ou de tournesol. L'étude concerne les abeilles domestiques, celles qui font notre miel, souligne Jean-François Audoux, chercheur à l'INRA.
Les abeilles domestiques butinent à plusieurs kilomètres autour de leur ruche, au point qu'une ruche exploite un territoire de près de 3000 hectares de façon commune. Alors que les abeilles solitaires se déplacent très souvent beaucoup moins loin, à quelques centaines de mètres, et à ce moment-là ne nous indiquerait que ce qui se passe au niveau d'une parcelle ou de deux parcelles, mais pas au niveau d'un territoire.
Au fil des études, les moyens de sauver les abeilles se dessinent. C'est donnant-donnant, puisque quand elles pollinisent le colza, la production augmente parfois jusqu'à 40%.
Sophie Becherel, spécialiste science à France Inter.
7h38, Facebook fait un pas dans la lutte contre la violence sur les réseaux sociaux.
Facebook serait prêt à donner les adresses IP des internautes diffusant des propos haineux. Les adresses IP, c'est-à-dire le numéro d'identification d'un ordinateur, une collaboration avec la justice à laquelle se refusait jusqu'ici le géant du numérique, Sophie Parmentier.
Jusqu'à présent, Facebook n'acceptait de collaborer avec la justice française que dans deux types d'affaires, des affaires de terrorisme ou de pédopornographie. Mais s'il s'agissait d'un appel à la haine d'une autre nature, les victimes françaises devait se lancer dans une longue procédure avec la justice américaine avant d'espérer identifier l'internaute haineux, souvent caché derrière un pseudonyme. Désormais, Facebook aurait donc promis de livrer les adresses IP des internautes publiant des propos racistes, antisémites ou homophobes. Cette promesse est une grande avancée, estime maître Thierry Valla, avocat spécialiste du droit numérique.
On avait des difficultés, souvent Facebook traînait les pieds ou ne donnait que partiellement les informations. Donc là, si Facebook fait ce qu'ils ont annoncé, ça sera un vrai progrès, peut-être pas aussi décisif que ça, parce que il faut bien aussi comprendre que beaucoup d'internautes aujourd'hui, les diffameurs professionnels, cachent leurs adresses IP, et bien ils vont cacher leur IP par ce qu'on appelle des réseaux proxy ou VPN, et donc là pour le coup, ça pourra être plus difficile. Mais néanmoins, je considère que c'est quand même une avancée plutôt spectaculaire.
Et Twitter, dit Maître Valla, devrait prendre exemple sur Facebook.
Sophie Parmentier, l'interdiction de la fessée, c'est pour bientôt. La proposition de loi doit passer aujourd'hui devant la commission des lois du Sénat, avant un vote définitif du Sénat prévu le 2 juillet prochain, ce qui fera de la France le 55e pays au monde à interdire ce qu'on appelle cette violence éducative ordinaire.
7h40, les syndicats vont debout contre la réforme de l'assurance chômage, Sébastien, mais en ordre dispersé.
Oui, hier, 300 militants se sont rassemblés devant le ministère du Travail, à Paris, à l'appel de la CFDT, de la CFE-CGC, CFTC et UNSA. Et aujourd'hui, première journée de mobilisation à l'appel de la CGT. Le syndicat s'inquiète en particulier des mises
missions supplémentaires assignées à Pôle emploi, alors que la réforme du gouvernement ne prévoit que 1000 embauches supplémentaires. Écoutez, Yann Piktorov, CGT Pôle emploi de Seine-Saint-Denis.
On est censé avoir, en modalité renforcée, 70 personnes à suivre. À l'heure actuelle, notamment sur le 93, là où je travaille, on peut voir des portefeuilles renforcés de 250 à 350 personnes à accompagner. C'est impossible. C'est impossible d'avoir ces missions. Et ça, c'est aujourd'hui. On a des portefeuilles qui explosent. On a des conseillers d'indemnisation qui sont proches du burn-out parce qu'ils sont très peu nombreux, parce que l'établissement a supprimé des postes de conseillers d'indemnisation depuis plusieurs années et qui commencent à se rendre compte maintenant qu'en fait, c'est compliqué. Et donc, ils recrutent des CSD qui ne sont pas encore formés. Donc, à l'heure actuelle, déjà, on a une charge de travail qui est considérable avec ce qu'annonce le gouvernement. Des nouveaux accompagnements, l'indemnisation des indépendants, des démissionnaires, et l'accompagnement avec les deux demi-journées qui sont annoncées d'accompagnement suite à l'inscription. Ça, c'est une charge de travail qui va être supplémentaire et qui va impacter en fait finalement le travail des agents. Ce que veut le gouvernement finalement, c'est faire du nombre, qu'on reçoive, qu'on fasse de la quantité, au détriment de la qualité.
En bref, encore en économie, c'est aujourd'hui le début des soldes d'été. Les dernières a duré 6 semaines, après ce sera seulement 4 semaines. Et puisque c'est les soldes, pourquoi ne pas en profiter, Nicolas, pour s'acheter l'accessoire mode du moment, la banane, cette petite sacoche portée à la taille, vous vous en souvenez, dans les années 80, et qui revient en force chez les jeunes Marius Delaunay.
Robin a 25 ans, adepte de la banane depuis des mois, jamais à la taille, toujours en bandoulière.
C'est rare quand j'avais pas. Tu perds rien, tu vas en festival, tu perds rien.
Il y a quoi dedans, par exemple?
Alors, j'ai mes AirPods, mes clés, tout ce qui est mon petit portefeuille, quoi.
On met quoi là-dedans, en fait? On met tout?
Bah, on met tout, et puis on a rien dans les poches. Du coup, nos poches sont libres. Tout est dans la banane.
Robin suit l'exemple de nombreux rappeurs. C'est ce milieu musical qui commence à rendre la banane, un accessoire revenu tout droit des années 90, de nouveau populaire. Thomas Zilberman est styliste, spécialisé dans les tendances de la mode.
La génération qui est née justement à la toute fin des années 90, voire même au début des années 2000, qui n'a donc pas connu vraiment les années 90, fantasme complètement sur cette période, et effectivement tous les codes du cool en ce moment sont quand même beaucoup issus des années 90.
Et ce n'est qu'un début.
Tout s'enchaîne. Hein. D'abord on a eu le retour de la ugly sneakers, la basket de sport moche qui a envahi le marché. Hein. Alors après il y a eu la banane. Ce qui nous guette, c'est le retour du cycliste. Vous savez, le caleçon court moulant au-dessus du genou dans les illito mode. Voilà ce qui nous guette.
Il y a même un terme pour toutes ces tendances, on appelle ça le ridicule, une sorte de revanche du ringard sur la mode actuelle.
Voilà, je crois qu'on n'est pas encore prêt pour le retour de la banane et du ridicule. Merci Sébastien Legénie.